11 heures passées de quelques instants sur votre radio, la nouvelle génération Canal FM. Vous comprenez que c'est l'heure de l'émission Club de la Presse. Je suis très ravi alors de vous retrouver dans ce nouveau numéro de l'émission pour le compte de cette semaine. Thomas Datevi est à la mise en onde et la mise en ligne est assurée par Géraud Akuta. Je suis Pascal Losso au micro. Club de la Presse, c'est aussi avec nos radios partenaires, Radio Lumière à Anéro, Radio La Paix à Takpamé, Centrale FM à Sokodé, Radio Daoul à Bassa, Sama FM à Niamtougou et puis Radio Courtoisie à Dapaon. Vous pouvez également nous suivre à travers nos différentes plateformes numériques et aussi nos radios partenaires en ligne, Ibn Radio et Radio Les Bénins. Club de la Presse, c'est le débat, l'analyse, le décryptage et le commentaire de l'actualité d'ici et d'ailleurs. Et c'est avec nos confrères journalistes en studio, avec moi et aussi des invités sur le plateau. Déjà, confrères journalistes présents, alors en studio avec moi, c'est Abel. Abel, bonjour.
Bonjour Pascal, bonjour à tous les auditeurs et à toutes les auditrices de Canal FM.
J'espère que tu vas bien.
On rend grâce à Dieu.
Alors, quand on parle de mercredi au Club de la Presse, nous comprenons tout simplement que c'est avec santé, éducation, en première partie avec santé, éducation. Et vous êtes là alors pour nous parler alors de votre numéro, votre nouveau numéro, hein, c'est-à-dire le numéro d'aujourd'hui, santé, éducation. Vous avez traité encore beaucoup de sujets de la santé alors dans ce numéro. Et à la une, on lit « Jus efficace pour traiter l'anémie ». Vous nous donnez une recette ou des recettes alors pour pour lutter contre l'anémie.
Exactement. La une de notre journal est dédiée à l'anémie et surtout avec l'alimentation. Donc nous titrons « Jus efficace pour traiter l'anémie ». Vous savez, l'anémie, c'est une maladie qui survient lorsque le niveau d'hémoglobine dans le sang diminue. Donc ceci en raison de la carence en fer dans le corps. Donc, cela veut dire que l'organisme manque un apport en oxygène et cela peut conduire à une faiblesse des muscles, à une perte de concentration et des problèmes au niveau de la peau et des cheveux. Donc, si l'anémie perdure, elle peut influencer, bien, elle peut provoquer des complications graves telles que la tachycardie, c'est-à-dire le battement irrégulier et du cœur, l'hypertension et peut-être des troubles de mémoire. Voilà, donc il faut la traiter, et il faut aller à l'hôpital, et il faut un traitement médical. Et en plus de ça, nous proposons des jus maison à base de fruits et légumes qui peuvent aider le patient à faciliter le contrôle de ses symptômes et tout en accélérant le processus de récupération. Donc ces jus apportent du fer et des nutriments pour la santé du patient. Mais ces jus ne remplacent pas le traitement médical proposé par un médecin.
Ces jus ne remplacent pas alors le traitement médical proposé par le médecin. Vous l'avez si bien précisé. Autre chose alors dans votre journal d'aujourd'hui, c'est vous parlez alors de la fatigue. Toujours la fatigue, revoit votre hygiène de vie.
Exactement, la fatigue, tout le monde, vous savez, la fatigue n'a pas de saison. Hein. Chaque temps on est fatigué. Ça peut être dû à des causes physiques comme psychologiques. Dans tous les cas, chacun veut être en forme, chacun veut avoir du tonus et on se démerde chaque temps pour ne pas être fatigué, pour avoir une bonne santé. Mais si on constate que cette fatigue est permanente et chaque temps on est fatigué, on est exténué et toutes les semaines on est exténué, il faut revoir son alimentation, il faut revoir son sommeil, il faut revoir son activité physique et surtout revoir son stress. Donc voilà un peu quelques comportements qui peuvent nous aider. Et surtout, quand ça perdure durant des semaines, durant des mois, attention, consulter un médecin pour un diagnostic précis.
Il est très important de consulter un médecin pour un diagnostic. Vous vous intéressez aussi à un organe chez les femmes, c'est les seins. Et vous parlez alors de seins douloureux, cause possible.
Oui, aujourd'hui, on peut constater que de nombreuses femmes se plaignent des problèmes au niveau du sein. Ça peut être dû à leur sensibilité ou bien aux douleurs au sein. Et certaines ont peur. C'est-à-dire, peut-être qu'ils pensent déjà à un cancer, à un cancer du sein. Mais il y a d'autres facteurs également qui, qui peuvent être à l'origine des douleurs au niveau du sein. Ça peut être des changements hormonaux, ça peut être des infections au niveau mammaire, ou peut-être la grossesse aussi peut jouer un rôle. Peut-être même les menstruations peuvent également être une cause. Mais l'essentiel, l'important, c'est que si la femme essaie de palper ses seins, essaie de faire ce qu'on appelle l'autopalpation des seins, ou bien l'auto-examen des seins, et peut-être tout quelque chose d'anormal, il faut rapidement consulter un gynéco.
Est-ce qu'on doit s'inquiéter quand on a des seins douloureux? Je veux parler alors des femmes. Au niveau des femmes, quand on a des seins douloureux, où on sent vraiment des douleurs dans le sein, on doit s'inquiéter?
Oui, on peut s'inquiéter. L'essentiel, comme je le dis, si ces douleurs deviennent anormales, ces douleurs sont associées à certains symptômes, il faut aller à l'hôpital.
Il faut aller à l'hôpital. Aussi, vous nous proposez des nutriments, et vous proposez 6 nutriments pour protéger le cerveau.
Exactement. Le cerveau a besoin d'être bien alimenté pour assurer ses fonctions. Donc, bon nombre de nutriments sont indispensables à sa structure et à son bon fonctionnement. On sait tous bien le rôle de l'alimentation, il faut bien manger. Et on propose 6 nutriments importants qui peuvent aider le cerveau à garder son tonus. Donc, tout ça, ça fait partie de l'alimentation, ça fait partie de notre assiette. Quand on a une bonne assiette, le cerveau également est en bonne forme. Donc, cela nous permet d'éviter le vieillissement du cerveau, lutter contre le stress oxydatif et les troubles cardiovasculaires. Oui. Donc,
parce qu'entre le cerveau et le cœur, il y a toujours
un lien. Il y a toujours un lien. Une bonne assiette, une alimentation variée, saine, équilibrée, comportant ces 6 nutriments, nous permet d'avoir de lutter contre les maladies neurodégénératives, c'est-à-dire la démence, la dépression, l'anxiété, et prévenir l'Alzheimer, si possible. Donc, une assiette bonne pour le cerveau est donc bonne pour le système cardiovasculaire.
Ça rime bien, et ça, je pense tout simplement que c'est quelque chose que nous devons garder, une assiette bonne alors pour le cerveau. C'est également alors quelque chose qui est très très bien alors pour le cœur, et ça fait plaisir. Alors tous ces sujets là, c'est à découvrir dans votre journal d'aujourd'hui, Santé Éducation, que nous pouvons retrouver dans les kiosques et dans les bacs. C'est à quel prix?
Oui, Santé Éducation est déjà dans les kiosques, la version papier est à 1000 francs. Et la version numérique sur notre site www.santé-education.tg au prix de 500 francs.
Voilà. Nous étions rejoints entre-temps par Tchabouré, le directeur de publication du journal Le Messager. Tchabouré, bonjour.
Oui, bonjour et bonjour à vos invités. Bonjour chers confrères. Et bonjour aux auditeurs également.
Merci.
Sans oublier les auditrices.
Justement, tu allais commencer par là.
Justement. C'est elles qui nous suivent de plus.
Justement. Je pense qu'il y a Santé Éducation qui est toujours spécialisée dans les informations alors de santé. Et vous avez vu, nous avons parlé d'un certain nombre de sujets. Nous devons prendre soin alors de notre santé.
On doit prendre soin de notre santé parce que on dit la santé n'a pas de prix. La santé n'a pas de prix. Quand vous n'avez pas la santé, vous ne pouvez rien faire. Si nous sommes ici, c'est parce que nous sommes plus ou moins en santé. C'est pourquoi nous sommes ici aujourd'hui en train d'échanger. Moi, je pense que tout le monde, pour vivre bien, doit être préoccupé, doit se préoccuper de sa santé. Voilà. Je crois que c'est très important. Parce que c'est avec la santé qu'on peut tout faire. Donc, tout ce que le confrère vient de dire tout à l'heure, je pense que c'est la triste réalité. Notre manger, contrôler ce que nous mangeons, faire tout de notre possible, au moins pour adhérer à un certain nombre d'hygiènes, c'est très important. Donc, pour vivre longtemps, c'est vrai, on sait que Dieu nous a créé, quoi qu'il en soit, nous allons mourir d'un jour ou l'autre. Mais je pense que la vie aussi fait partie de la vie, si je peux me permettre de faire cette tautologie, c'est-à-dire la santé fait partie de la vie. Et je pense que pour mieux vivre, il faut quand même se préoccuper de notre santé. Donc, prendre soin de nous et adhérer à un certain nombre de pratiques qu'il faut pour vivre longtemps.
Voilà, c'est très important. Il faut prendre soin de notre santé. Abbas ne nous dira pas le contraire. Abbas Issaka du journal Le Mania Libéré. Bonjour, Abbas.
Bonjour et bonjour à tous les auditeurs. de Canal FM.
J'espère que vous allez bien.
On rend grâce.
On parlait de santé, nous devons prendre soin de notre santé.
Mais ça, là, ça ne peut pas arriver ici. Donc, il faudrait que tout le monde contrôle sa santé. Et très souvent, on dit que notre santé dépend de ce que nous consommons. Donc, si on mange mal, on ne sait pas ce que nous allons prendre pour rester en bonne santé. C'est qu'on risque de perdre cette santé-là.
Voilà.
Et effectivement, il y a également le sport. Pour faire du sport, la marche, pour se maintenir, pour maintenir aussi sa santé. Donc, c'est les deux éléments essentiels. Comment manger pour maintenir sa santé et comment faire le sport pour maintenir sa santé. Je pense que rien ne vaut la santé.
Voilà. Alors, nous avons un invité spécial aujourd'hui. L'invité, c'est Isaac Tiapé. Bonjour, Isaac.
Bonjour, cher monsieur Losso. Bonjour à vos confrères journalistes, monsieur Abbas,
Monsieur Chabouré
qui sont en studio. J'en profite pour adresser mes salutations chaleureuses à Sass Gao qui n'est pas en studio en lui disant que nous sommes tous en pensée et en cœur avec lui.
Voilà. Alors, nous vous avons invité, surtout à l'opport où vous voulez ajouter quelque chose.
Je voulais abonder dans le sens de l'émission, de la participation à la question de la santé. Et je voudrais aussi inciter les radios, à l'instar de ce qui se fait sur la TVT, d'organiser davantage de temps une émission d'une heure où on peut inviter des spécialistes ou des nutritionnistes pour entretenir nos populations aussi bien dans nos labs nationaux sur les questions de la santé, parce que ce sont des problèmes, nous avons de réels problèmes à la fois de métabolisme dans la société africaine. Nous avons des problèmes aussi notamment liés aux maladies cardiovasculaires, nous avons des problèmes de la prostate, donc des gestes qui, une bonne heure qu'on consacrait uniquement au lieu de faire que des débats sur la politique, mais des choses qui touchent au quotidien de la vie de nos concitoyens.
La politique, ça nous intéresse et je sais que ça intéresse beaucoup aussi nos citoyens, ou nos concitoyens j'allais dire, et donc c'est pour cela que nous avons invité aujourd'hui. Nous savons que déjà le samedi dernier, l'Union des forces du changement, UFC, a organisé son congrès statutaire. Et ce congrès statutaire, à l'issue alors de ce congrès, nous savons qu'il y a un bureau qui a été mis en place, et un bureau de 33 membres, bien évidemment, qui a été mis en place. Alors, est-ce que nous dirons, Monsieur Isaac Tiapé, vous êtes le premier porte-parole alors de ce bureau, est-ce que nous dirons que déjà la crise au sein de l'UFC est derrière nous avec ce congrès ?
À tout le moins, je dirais que nous avons trouvé une solution au problème qui nous minait jusqu'à aujourd'hui. C'était des problèmes de cohésion dans le parti. Et ces problèmes de cohésion ont été réglés par ce congrès qui a été organisé selon les dispositions statutaires de notre parti, notamment un article dans notre parti qui autorise le bureau directeur à tenir cette assise, un congrès statutaire, parce que le congrès statutaire, c'est une assise qui est prévue à des époques précises. Et nous l'avons aussi organisé de la manière suivante. Nous avons essayé de rechercher le consensus. Le consensus n'étant pas obtenu, le règlement intérieur de notre parti nous autorise, avec l'accord du président national, à procéder alors au vote. Et lors de cette assise, sur les 15 membres qui composent l'instance, c'est-à-dire qu'au départ, le bureau directeur était composé de 31 personnes. Et sur ces 31 personnes, il n'en restait que 15 à la suite de démissions, de décès et autres. Donc, des 15 personnes restantes, régulièrement élus lors du dernier congrès de l'Union des forces de changement. Les 15 personnes, 13 personnes étaient présentes à ce congrès. Donc la majorité a prévalu, la voix de la majorité s'est imposée. En outre, la plupart des gens qui ont voix délibérative et qui ont vocation, selon la loi, les dispositions statutaires, à être présents à ce congrès et faire le constat que le quorum est atteint pour que le congrès puisse valablement se constituer, ces personnes étaient présentes. Nous avions plus des deux tiers, notamment nous avions sur 57 fédérations, plus de 48 fédérations qui étaient présentes. À ce congrès, on a pu voir ce qui constitue la vitrine institutionnelle du parti, c'est-à-dire les députés. Les 7 députés étaient présents à ce congrès. Et donc, le congrès s'est tenu, l'assise a eu lieu et nous avons renouvelé le bureau qui a reconduit M. Gilles-Christ Olympio à la tête du parti. 7 vice-présidents ont été réélus, un secrétaire général a été élu. Je pense que le problème qu'il y a eu, ça a été une question de conflit de personnes. Alors l'accent sera mis sur 3 choses. Consolider l'institutionnalisation du parti, faire en sorte qu'on passe de parti personnel où les questions personnel prévale, à un stade où les structures sont bien formalisées et le fonctionnement du parti se déroule selon des règles précises. C'est ce que j'appelle l'institutionnalisation de l'union d'efforts de changement. Et vous constatez, pour élargir le débat, que c'est un problème qui est récurrent dans les partis politiques d'opposition, notamment la plupart de ces partis politiques qui ont été créés par et pour des hommes, et dans ces partis faiblement institutionnalisés, pour certains inorganiques, des disputes arrivent où ce sont des questions de personnes. Ce que nous voulons faire, c'est de rappeler aux gens qu'il y a des dispositions statutaires et que ces dispositions statutaires prévalent. Nous nous battons pour un état de droit. Nous nous battons pour la démocratie. Le combat de l'union de changement, c'est de se battre pour l'état de droit. Cet état de droit, l'application des règles de droit commence déjà au sein de notre parti. Et c'est ce que nous avons fait. Et nous nous battons aussi pour la démocratie. Notre congrès, les dispositions statutaires prévoient que c'est le congrès qui élit. Et l'élection, il y a plusieurs mondes. C'est par consensus, vote à main levée ou vote à bulletin secret. C'est ce qui a été fait. Et une instance nouvelle est en place pour affronter les nouveaux défis. Assurer la cohésion, l'avenir d'un parti, c'est trois choses. Sa clarté idéologique, nous l'avons précisé dans une résolution qui réaffirme la ligne politique du parti. Celle d'obtenir une alternance pacifique négociée par des voies de la négociation coopérative, en insistant sur les règles du compromis. Faire de la politique aussi, c'est avoir une propension à des compromis. La deuxième résolution qui a été prise, c'est d'assurer la formation des cadres, d'assurer que les cadres soient en capacité un jour, un parti qui sera un jour à terme en capacité d'exercer le pouvoir d'État. Nous avions des responsabilités dans ce pays. Nous avions une culture du gouvernement, et cette culture du gouvernement, ce sens de l'État que nous avons à travers de membres du parti qui exercent des fonctions préfectorales au nom de l'État, ces gens, nous devons capitaliser pour davantage faire passer ça aux militants réformés. Donc, enjeu à long terme, consolider l'institutionnalisation du parti, préparer des militants qui seront en capacité un jour de pouvoir gérer le pouvoir d'État. À moyen terme, ce sont les élections qui arrivent, aller au affronter ces scrutins qui arrivent, notamment législatifs et régionaux.
Alors, c'est vrai que quand on scrutine ce petit peu ce bureau directoire de l'UFC, nous voyons tout simplement qu'il y a l'absence du ministre Elliott Tohin, qui était le premier vice-président alors du parti. Alors, comment cela s'explique?
C'est fâcheux, puisque nous avons essayé personnellement, sur les instructions du président national, je me suis engagé, j'ai entamé beaucoup de démarches pour faire en sorte que le consensus prévale et que toutes les parties qui ont vocation à exercer une responsabilité dans l'union de force de changement soient présentes à ce congrès. J'ai fait des démarches pour que M. Elliott Tohin, qui est aussi une personne importante, qui a occupé des responsabilités, soit présent. Il n'a pas daigné honorer de sa présence ce congrès. Je vous le rappelle, des 15 membres du bureau directeur restant, une personne n'a pas daigné se présenter et la majorité a prévalu. C'est ce qui est dans nos statuts. C'est fâcheux et j'espère que nous continuons des démarches pour faire en sorte que la famille soit réunie davantage. Nous le ferons et il n'est pas trop tard. Il a toujours sa place dans le parti.
Ce qui veut dire qu'ils ne sont pas écartés du parti.
Nous n'avons exclu personne.
Alors, des confrères journalistes sont avec nous, bien évidemment. Il y a Taboré, il y a Abbas. Et si vous avez une question à poser à M. Tiakbe, ces questions seront les bienvenues. Taboré?
Non, je pense que nous sommes des journalistes et nous avons fait un constat que le congrès a été tenu l'autre fois. Et comme il lui dit, je crois qu'ils se sont appuyés sur les tests pour aller à ce congrès et pour faire les élections. En tout cas, nous, en tant que journalistes, observateurs, nous allons suivre pour voir qu'est-ce qu'il en sera. Vous savez, la vie d'un parti, c'est le fait d'être institutionnalisé. Il l'a dit et tout à l'heure, M. Tiakbe, il l'a dit tout à l'heure, et c'est également d'occuper le terrain, parce que lorsqu'on crée un parti politique, évidemment, c'est de se battre pour accéder au pouvoir et diriger. Donc on espère, nous avons vu, ils ont défini également leur ligne politique, et nous avons vu, on va observer pour voir qu'est-ce qu'il en est. Mais moi, j'ai une petite question pour terminer. Qu'est-ce que M. Tiakbe dit pour ceux qui pensent que vous serez, j'emploie le truc, vous serez des béquilles du pouvoir en place aujourd'hui, parce que je pense que vous avez eu à écouter beaucoup de choses par rapport à votre collaboration avec le pouvoir en place. Qu'est-ce que vous en dites par rapport à ça?
Deux choses. Personnellement et mes camarades, nous n'avons pas vocation à être les derniers de la classe. Nous n'avons pas vocation à être des supplétifs. J'ai quand même une ambition pour mon pays, j'ai une ambition pour le parti, c'est celle, un jour, d'exercer des responsabilités de premier plan, c'est-à-dire être un chef de l'État, pourquoi pas. J'ai une vocation, c'est pas que chef de l'État, mais pas être chef de l'État pour être chef de l'État, mais pour servir l'intérêt général. Donc, nous n'avons pas cette vocation d'être des supplétifs. Sur cette question, je passe. Si nous avons, entre 2010 et 2018, travaillé de concert avec le parti au pouvoir, c'est une approche, c'est tenant compte, c'est parce que nous avons voulu donner de la profondeur historique à notre action. Donner de la profondeur historique, c'est simplement le constat que la vie politique au Togo a été polarisée. Ce fonds politique togolais, depuis les années d'indépendance, c'est un fonds politique radicalisé où elle est faite d'insultes, d'invectives et d'indexation de l'autre. Dans ce contexte, le débat est souvent, le débat démocratique est souvent escamoté. Et nous avons des identités politiques, ce que je dis, des identités politiques sclérosées. Nous avons une représentation de l'autre qui n'est plus un adversaire politique, mais qui est un ennemi. Nous jugeons de la politique en bien ou en mal. Alors que ce qu'il faut aujourd'hui, c'est de prendre en compte toutes les identités au Togo, les différences. C'est de faire en sorte que la représentation que j'ai de l'autre ne soit plus une représentation, mais d'exclusion. C'est de faire en sorte que le vivre ensemble, que le Togo soit une nation, construit une nation inclusive. C'est parce que notre pays a fonctionné sur ce mode binaire de polarisation qu'à un moment donné, après évaluation de la situation, tenant compte, c'est ce que je dis, cette profondeur historique, nous avons décidé d'approcher le parti au pouvoir, de discuter et d'entrer dans une démarche que je dis de négociation coopérative. Ça nous a permis effectivement d'avoir des membres du parti au pouvoir, d'exercer des responsabilités, de comprendre que exercer une responsabilité, c'est aussi faire des compromis, c'est aussi faire des arbitrages, par arbitrages qui parfois peuvent aller à l'encontre de vos propres intérêts. Parce que quand vous vous inscrivez, quand vous êtes ministre, vous n'êtes pas que ministre pour les gens qui vous ont élu, pour les gens de votre communauté, mais vous l'êtes pour l'ensemble des Togo. Donc, cet exercice de la responsabilité que certains n'ont pas eu, c'est pour ça qu'il est loisible et beaucoup plus facile pour eux de n'être que dans la critique. Nous ne sommes plus dans la contestation. Nous voulons amener un plus. La valeur ajoutée que nous voulons amener à la vie politique togolaise, c'est celle-là. Parce que nous avons expérimenté aussi la radicalité. Nous avons expérimenté la polarisation et nous disons qu'il est temps de s'occuper des choses essentielles, notamment le bien-être de nos populations. Parce qu'au final, qu'est-ce qui compte pour un responsable politique? C'est d'être au service des gouvernants. Et être au service des gouvernants, ce sont des choses les plus simples dans nos pays. C'est la réduction de la misère et de la pauvreté. C'est la question de la santé, de l'éducation. C'est la question de l'environnement aujourd'hui, puisque ce sont des questions essentielles. Et ça, ce n'est pas une question idéologique. Bien sûr qu'il y a des approches idéologiques, mais dans nos pays, les questions d'idéologie ne peuvent pas avoir de cette pertinence. Nous avons des questions d'idéologie, je ne vais pas rentrer dans le détail aujourd'hui. C'est-à-dire ces questions d'idéologie, je suis ablolé, je suis nationaliste, je suis herpétiste. Non, au final, c'est de faire en sorte que quand il pleut à Lomé, que les rues, que ce soit pas inondé, c'est de faire en sorte que le bassin qui devrait avoir 17 mètres de profondeur et qui est réduit aujourd'hui à 3 mètres de profondeur, c'est de faire en sorte que ce bassin, il y a deux causes structurelles, il y a une cause, enfin deux causes, une cause structurelle profonde, c'est peut-être que ce bassin n'est pas grand, et il y a des causes aujourd'hui aussi conjoncturelles, des gens qui jettent des choses, qui jettent des déchets dans les bassins. Ce sont ces choses-là, par exemple sur la question de la santé. Vous voyez, je disais, si on peut consacrer une heure d'émission par jour
En langue nationale,
vous savez, quand un accident, vous parlez tout à l'heure de sang, de cœur qui aide. Oui, ce sont les cardiaques. Donc, vous voyez, toutes ces choses, des émissions qui peuvent aider
tout
à améliorer et même la santé. Des petites choses qu'on ne l'imagine pas, mais ce sont des petites choses qui sont utiles et nécessaires. Le débat des personnes qui viennent ici de dire X a dit « Ah oui, tu m'as fait ceci et cela ». Non, non, non. Je pense qu'il est temps que nous, Togolais, et c'est avec humilité que je le dis, j'ai peut-être été aussi à un moment donné un des acteurs de cette polarisation, mais c'est avec humilité que je demande, que je dis aux gens, qu'il est temps que nous mettons un peu nos balles à terre, que nous regardons qu'est-ce qui est essentiel. À chaque niveau où nous sommes, nous pouvons apporter notre contribution dans ce pays.
Et réfléchir surtout au développement de notre pays. Abbas ?
Oui, moi je me réjouis que finalement, on dit ouf, l'UFC a pu organiser son congrès après tant de tintamarres. Et je pense que l'UFC a failli même disparaître par rapport à la nouvelle charte des partis politiques qui imposent de faire un congrès chaque 5 ans. Et avec les disputes entre les membres même, les militants même, les premiers responsables même de l'UFC, qui ne se sont même pas entendus, qui ne s'entendent pas, alors que le président fondateur lui-même là, Fogil, est présent. Et c'est devant lui que toutes ces choses-là se passent. Tout le monde se posait la question de savoir comment se fait-il que cette comédie-là se joue au sein de l'UFC, alors que le patron lui-même, il est là, il se tait, il ne dit rien. Pourquoi ce silence? Deuxième question, on a constaté que tout à l'heure, vous avez dit l'absence de Ohin,
oui,
qui faisait beaucoup de problèmes, puisque l'UFC se retrouve avec deux têtes.
Tout à fait.
Il y a une partie ici, une partie là, et aujourd'hui, on a fait ce congrès de l'UFC sans Ohin. Est-ce à dire qu'il n'y a pas eu de consensus avant d'aller à ce congrès? Est-ce que le consensus n'a pas été? Parce que c'est toujours ce même consensus, ce même problème qui a fait que le congrès a traîné jusqu'à arriver à ce point-là. Chacun tirait le drap de son côté. Et on se pose la question, parce que si l'UFC n'arrivait pas à tenir son congrès, c'est déjà une perte pour ce grand parti-là qui a fait la plus haute beau temps de la démocratie togolaise. Est-ce qu'il s'est passé? On ne sait pas. Mais là, la troisième question. Nous voyons aujourd'hui beaucoup de partis politiques, d'associations qui se retrouvent en regroupement pour dire qu'ils vont défendre pour aller aux élections. On a vu des regroupements qui se sont posés. Voilà. Aujourd'hui, est-ce que l'UFC va aller seul ou bien va ouvrir ses portes aux autres partis politiques pour travailler ensemble?
Voilà les trois questions alors de Dabas. Je vous rappelle, la première, c'est par rapport surtout à cette mésentente qui a eu lieu au sein du parti, tandis que le monsieur Jicris Olympio était là.
Il n'était pas silencieux, c'est-à-dire si c'est un silence, c'est un silence dont qui cachait plutôt un activiste, des démarches en coulisses internes. Alors, vous voyez, justement, un parti bien organisé, on n'amène pas les disputes internes à l'extérieur. Vous verrez que je n'ai jamais, si je viens aujourd'hui, c'est parce que je considère que le temps est arrivé d'exciter les choses. Mon nom de la famille été cité dans cette petite bataille, dans cette petite guerre. En revanche, ce qu'on a pu faire avec M. Olympio, ce qui m'a chargé de faire, c'est d'aller vers les autres, de faire en sorte, en toute humilité, de faire en sorte que toutes les parties puissent aller à ce congrès. Et je l'ai fait, j'ai fait des démarches auprès de M. Ohin. M. Olympio n'était pas silencieux, il a réuni à plusieurs fois tous les protagonistes, leur a donné des instructions pour aller au congrès. La question qui s'est posée à un moment donné de la crise, elle a une seule cause. C'est d'ailleurs qu'il y a eu une volonté de caporalisation de la manière de gérer le parti, l'UFC. Or, ce que nous trouvons, le mode de gestion dans le parti, même avec M. Olympio, c'est toujours un mode de gestion que je dirais horizontal. M. Olympio nous réunit et il nous interroge sur, on fait des choix et nous s'est débattu en bureau directeur, même pour les choix des nominations, pour les choix des les candidats aux élections. Donc on a toujours un mode de gestion qui est consensuel et horizontal. Bien que malgré le charisme que M. Olympio, il n'a jamais procédé par caporalisation. Et c'est quelqu'un qui incarne bien cette manière d'être le vrai leader. Le vrai leader qui agit avec ce qu'on appelle un charisme de conviction, et qui a des certitudes, et qui sait où les passer, et qui a ce qu'on appelle une capacité entraînante. Le leader, ce n'est pas le dictateur, ce n'est pas quelqu'un qui impose les choses. Ce qui a posé problème à un moment donné, c'est que quand M. Olympio est absent du territoire national, l'absence du territoire national ne veut pas dire absent tout court. Et j'insiste dessus, parce que j'ai eu une discussion avec un de vos confrères aujourd'hui qui avait des difficultés à percevoir cette différence entre l'absence du territoire national, qui ne veut pas dire incapacité à exercer cette prérogative, hein, l'absence du territoire national, on peut être à l'extérieur deux jours et continuer à être président de la République. On peut être à l'extérieur et au Ghana et être président du parti. L'UFC a toujours fonctionné comme ça. Monsieur Olympio, c'est quelqu'un qui voyage beaucoup, qui va beaucoup, qui va bien. Or, à un moment donné, étant absent du territoire national, certains ont considéré qu'il y avait absence, ont voulu prendre le parti et casse la lutienne. Ils ont la légitimité pour être au devant. Mais ce qui pose problème, c'est que cette tentative ou cette volonté d'être chef, pas un leader, ne va pas de soi. Elle crée des réactions. Et malgré ça, nous avons essayé, je me suis entendu, je suis allé à donner des conseils, je me suis allé vers ces gens qui ne voulaient voir la chose. Il est le chef, il décide, et ça a posé des problèmes. Quand il n'y a pas de consensus, comme demandait M. Abbas,
Issaka,
je le répète, ça a duré, c'est quelque chose qui a duré ces 3-4 dernières années pour trouver un consensus. Monsieur Olympio a régulièrement, ça m'oblige à encore faire étalage de nos problèmes de notre cuisine interne. Monsieur Olympio a essayé en sorte d'instruire, de montrer voilà comment on devient un vrai leader. Il a dit, mais la chose de ce n'a pas pu se faire. Il n'a pas été silencieux. Nous avons simplement plus le temps parce que ça durait. Il ne voulait pas tout de suite passer à cette étape du vote. Nous avons tout essayé, mais il y a des nécessités, des élections qui approchent, des échéances qui approchent, et nous devions passer. Ça, c'est pour répondre à la question. Il n'y avait pas de dette. Il y avait un spectacle que nous avons offert qui n'était pas, que je dirais, indécent, hein, qui était de venir étaler nos problèmes internes sur la place publique,
dans la suite des médias,
sur les médias, dans la presse. J'adresse, au nom du bureau directeur, nos excuses, et avec humilité, nous nous présentons des excuses de n'avoir pas offert à un moment donné ce spectacle-là, un bon spectacle, un spectacle exemplaire, surtout comme l'a dit M. Issaka, nous sommes les aînés de la scène politique togolaise, astreints à ce titre à une certaine exemplarité. Et cette exemplarité commande que nous ne venions pas, que nous sachions comment fonctionne le parti politique. Certains n'ont pas su le faire, je pose des excuses au nom de tout le parti pour aller aux auditeurs et auditrices qui appelaient pour se plaindre de ce qui se passe dans le pays. Et nous nous engageons à faire en sorte que ce spectacle désolant ne soit plus de mise. Et nous nous engageons dans un cours à venir, puisque vous demandiez à nous jauger sur PS, M. Chabouret, nous nous engageons à prouver que nous sommes de retour, à être davantage audibles et visibles. Nous nous engageons à bien préciser à nos concitoyens notre projet de société, la vision qui est la nôtre pour construire une nation inclusive, j'insiste dessus. Nous nous engageons à être porteurs toujours de propositions à l'Assemblée nationale. Nous nous engageons à davantage expliciter aux nos concitoyens ce que nous faisons dans un esprit de tolérance à l'égard des autres, dans un esprit de responsabilité et d'humilité. Enfin, pour répondre à votre question sur la question, sur le sujet des associations ou des alliances électorales, nous jugerons au cas par cas dans les circonscriptions ou dans les régions. S'il arrive dans certaines circonscriptions électorales que nous sommes bien placés, que ces circonscriptions électorales constituent ce que nous considérions être comme nos fiefs électoraux, nous discuterons avec des partis qui ont vocation, puisque notre ligne politique, c'est de discuter avec toutes les forces politiques. Et si au cas par cas ça arrive, nous le ferons. Nous ferons des alliances. Nous pourrons laisser par exemple dans l'Est Mono voir M. Thierry si nous trouvons qu'il est bien placé et que nous sommes faibles là-bas, nous pouvons nous engager à le soutenir.
Et quand on y est, pour ce qui concerne surtout le processus électoral, quelle appréciation l'UFC fait de ce processus qui est en cours depuis un temps?
Alors, vous. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que. En deux temps, je vais y répondre en deux temps. La CENI fait des propositions au gouvernement quant au chronogramme. C'est au gouvernement de décider après. Des propositions ont été faites. Au sein du cadre permanent des concertations, des propositions ont été faites aussi. Des idées ont été émises et mises sur le tapis lors des discussions, notamment celle du couplage des élections régionales et législatives. toutes ces questions ont été portées au niveau du gouvernement. C'est au gouvernement maintenant de rapporter au sein, de dire à la CENI ou aux acteurs politiques, voilà ce que nous avons décidé de faire. Nous pensons que pour telle raison, pour des questions de coûts, des questions budgétaires, il vaut mieux coupler les élections législatives et régionales. Ça, c'est une idée. Je ne suis pas dans l'exécutif. Et voilà. Et donc, le chronogramme, la CENI a fait déjà des propositions. Il appartient aujourd'hui au gouvernement de prendre des initiatives dans ce sens. Et je pense que d'ici la rentrée, nous aurons davantage de précisions. Néanmoins, on sait que le renouvellement de l'Assemblée nationale est constitutionnalisé. C'est-à-dire, il y a des dispositions de la loi qui prévoient que, à terme échu, les mandats des députés viennent à échéance et qui doivent être renouvelés, se représenter devant les électeurs pour recueillir leur suffrage. Donc, nous savons que d'ici la fin de cette année, les députés, leur mandat arrive à fin. Donc, on peut déjà se préparer. On sait que les élections auront lieu à la fin de l'année, même si de manière précise, personne aujourd'hui n'a empêché les partis politiques, à part des dispositions parfois d'opportunités liées à des questions sécuritaires, personne n'a empêché les partis de faire pré-campagne. La preuve, c'est que le week-end dernier, il y a des gens qui ont commencé par faire campagne déjà et qui se mettent déjà à exposer leur programme. Donc, la pré-campagne, elle est déjà du premier jour où on a commencé par... où les mandats sont... les députés sont entrés en fonction. Donc, tous ces partis, ils savent qu'à la fin de l'année... le mandat arrive à renouveler. Et je voulais préciser à l'attention de votre collègue, M. Accolor, j'évoquais ce matin qu'il y a une disposition de la loi qui permet aux députés de rester en fonction jusqu'à la mise, l'entrée en fonction des nouveaux. Oui. Bon, il ne trouvait pas. C'est le dernier alinéa de l'article 52. Si vous permettez que je lise rapidement, les membres de l'Assemblée nationale et du Sénat sortant, par fin de mandat, restent en fonction jusqu'à la prise de fonction effective de leur successeur. Il avait l'air d'ignorer cet alinéa. Je me permets, par votre biais, vous allez certainement à l'écoute.
Oui, et une petite question dans le développement que M. Tchakouya a eu à faire.
Oui.
Et à l'entendre, ça dit qu'on est certain aujourd'hui que l'UFC se prépare à aller aux élections à venir.
Tout à fait.
Quelle est la perception aujourd'hui au niveau de l'UFC et de l'organe, du travail que l'organe chargé d'organiser des élections a fait jusqu'à ce jour? La perspective, comment perçoit l'UFC du travail qui a été fait? Je vais parler de la CENI, parce que on est sans savoir qu'il y a des gens qui ont eu à critiquer ce travail par rapport au recensement.
Justement,
quelle est la perception que l'UFC fait aujourd'hui du travail qui a été fait par la CENI?
Avant de vous répondre concrètement, je veux dire que la critique est de mise et elle est souvent même excessive dans notre pays. Certains font profession ou excellent dans l'outrance, ne voient que le mal partout. Alors, des gens dans ce pays ont dit que le recensement était mal fait. J'aurais voulu, pour ma part, ça, c'est vraiment le scientifique qui parle, je ne m'exprime pas là au nom de l'homme rigoureux qui parle. J'aurais voulu, par exemple, qu'au terme de cette période de doublon, que donc ces personnes qui critiquent nous présentent un schéma précis pour nous dire que, en fonction, puisqu'on a des repères aujourd'hui, ces repères sont les suivants. C'est qu'on sait bien la pyramide des âges au Togo. On a deux repères des modes de confrontation. Est-ce que le recensement est conforme à une logique démographique au Togo? J'aurais voulu qu'on nous présente des chiffres concrets et qu'on nous dise, voilà, ce recensement n'est pas bon. Il n'a pas comblé les attentes des populations. Je ne nie pas qu'il y a eu des attentes, mais ce que je voudrais, c'est qu'on était, par des preuves indiscutables, c'est ce que j'ai dit, indiscutables, non des perceptions. La perception n'est ni vraie ni fausse, j'insiste dessus, je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a pas eu des problèmes. Je voudrais que nous fassions aussi, qu'on arrête dans ce pays aujourd'hui aussi, de ne faire que de critiquer. Et du reste, puisque ceux qui souvent font recette avec l'outrance, pour qui l'outrance fait recette en critiquant, ils savent le faire. Ils ont des statisticiens, des démographes dans leur rang. Ils ont des membres dans les CENI. Ils ont un membre à la CENI. ils ont un membre dans la CENI qui nous prenne les chiffres, qui nous dise ah voilà, pour la région maritime, nous avons tant d'électeurs. Vous savez, ce n'est pas normal parce que le recensement de l'habitat de la population de 2010 nous a donné une pyramide d'âge de temps. Le recensement de la population de 2022 nous a donné tant, puisque les chiffres sont aujourd'hui définitifs. Donc, on dit, voilà, vous voyez, il y a un problème. Et avec ça, on peut aller. Ils vont, je sais que des gens vont à la CEDEAO, mais ça va être rejeté. Parce que un juriste conséquent, pas, je dirais pas un juriste, un juriste qui a été à bonne école, hein, je dis un juriste qui a été à bonne école, il juge sur pièce, par s'il a eu dire. Je dis la perception, nous avons eu des perceptions de fil, c'est vrai. Mais est-ce que c'est conforme à... Est-ce que les résultats sont à moins? On va encore nous trouver un argument en disant qu'on a mis beaucoup d'étrangers, des gens... Dans ce cas, pour amener des preuves, ramener des preuves, c'est ce que je dis. Qu'on arrête d'intoxiquer tout le temps. Donc, pour répondre à votre question rapidement, la CENI... On a des représentants à la CENI. Et cette partie, parmi ces parties qui souvent critiquent, je crois savoir que l'une des commissions de la communication est tenue par des gens de ce parti. Et qui communiquent. Donc, je ne pense pas que la CENI... Je ne veux pas voir le verre à moitié vide. Hein, je dis qu'il y a un travail. On peut mieux faire. Faisons des propositions au gouvernement, puisque le gouvernement lui-même a fait le constat qu'il y avait des problèmes. Apportons des propositions concrètes au lieu que d'invectiver.
Nous savons que l'Assemblée nationale est en fin de mandat et nous savons également qu'il y a des députés à l'Assemblée nationale qui ont fait même d'ailleurs cette législature. Et finalement, quel est le bilan que vous pouvez faire alors de tout ce que vos députés ont fait à l'Assemblée nationale?
Vous voyez, ça les questions de personnes, les petites histoires en togolais, les togolaiseries, comme aime bien le dire un ancien chef de file de l'opposition. Donc ces togolaiseries ont pris le pas sur des questions essentielles. Vous parlez de notre bilan. Cette législature a fait le travail le plus fécond de toutes les législatures au Togo. Encore une fois, c'est la question de la communication, de l'explicitation des choses. Et souvent, les lois, nos populations, nos concitoyens ne touchent pas du doigt ces choses. Ce qu'il aurait fallu, c'est davantage communiquer. Pour ce qui est de notre parti, à chaque fois que des dispositions étaient prises, notamment tout le programme sur les filets sociaux, les programmes sur la résilience, la pauvreté, nous avons participé, puisque l'un des volets du programme de société, de ce que nous proposions à nos concitoyens, si nous avions vu en responsabilité, si on avait engagé en capacité, c'était d'insister sur une économie de la solidarité. Par exemple, il y a eu nous insistions pour que cette allocation aux jeunes soit pérenne, inscrite dans la loi. On a choisi, à partir de la période d'avril de Covid, le novici. Le novici, c'est quelque chose qui est inspiré directement de notre programme de société. Et si le gouvernement fait une proposition, si nous trouvons que ça va dans le sens de l'intérêt général, nous le votons et nous apportons des amendements. La deuxième proposition, force de proposition par exemple, c'est nous travaillons pour que, malheureusement ça ne pourra pas se faire, à la prochaine législature, l'institution d'un minimum vieillesse, le cap vert le fait. Et nous trouvons que c'est quelque chose, on fera cette proposition à la prochaine législature d'un minimum vieillesse pour toute personne âgé de 65 ans ou plus, qui sera un minimum vieillesse. Il y a eu beaucoup de lois qui ont été votées, mais une pléthore de lois, pour certaines on ne voit pas la pertinence, mais qui permettent de régir les règles de fonctionnement des citoyens. Vous avez vu par exemple la fois dernière sur la question de la citoyenne de civisme, l'engagement personnel du ministre de la Sécurité pour les feux tricolores, ce sont des questions qui peuvent paraître anodines, mais on a plus de 660 morts pour le premier trimestre sur nos routes. Vous voyez, ce sont les dispositions législatives doivent venir pour empêcher les tricycles de fonctionner et aussi la mise en application de ces-là. Et ce qui se heurte souvent à changer des mentalités, c'est-à-dire le vivre ensemble en cité. parce que pendant des années, il y a eu des gens sont laissés faire. Et donc, il y a un travail qui est fait. Ce que je peux reprocher et ce que nous nous engageons, enfin reprocher, ce que nous nous engageons plutôt à faire à la prochaine législature, c'est de rendre davantage, un, visible et audible les actions que nous menons en commission. Deuxièmement, c'est de faire en sorte que les concitoyens comprennent mieux, saisissent mieux du doigt ce que les parlementaires font à l'Assemblée dans le sens de l'intérêt général.
Abbas ?
Oui, j'ai quelques deux questions. Tout d'abord, nous savons que c'est l'UFC qui est le chef de file de l'opposition, Gilles-Christ Olympio, qui est le chef de file de l'opposition. Mais depuis, il n'est pas au Togo. Comment joue-t-il sa mission, sa fonction de chef de file de l'opposition? Est-ce que, une fois, j'ai entendu même les partis politiques dire qu'il y a des problèmes, mais le chef de file de l'opposition ne les a jamais rassemblés pour qu'ils parlent, pour qu'ils en discutent, pour qu'ils trouvent une solution? Est-ce qu'il joue bien son rôle de chef de file de l'opposition étant à l'extérieur? Vous avez dit tout à l'heure qu'on peut être à l'extérieur et diriger son parti. Mais si c'est une institution de la République, on ne peut pas rester à l'extérieur et diriger une institution de la République. Et de deux, il y a cette question de fin de mandat de la CENI, où les gens sont en train de demander son renouvellement. Est-ce que vous pensez que dans ces conditions, les élections pourront avoir lieu d'ici la fin de l'année? Parce qu'il faudrait, quand les gens demandent, lors de la dernière réunion au CPC, on a soumis cette question au ministre de l'administration territoriale qui a dit qu'il a pris acte. S'il a pris acte, ce qui veut dire que dans tous les prochains jours, on pourrait nous acheminer vers le renouvellement de cette CENI. Or, nous ne sommes qu'à 3 ou 4 mois de la fin du mandat de l'Assemblée nationale des députés. Alors, quelle est votre position là-dessus?
Monsieur Tchakri?
Oui, alors, pour la question du chef de file de l'opposition et du rôle qu'il joue, l'institutionnalisation du chef de file d'opposition a été faite par le gouvernement. Des initiatives ont été prises les deux premières années. Il y a eu la période du Covid qui a un peu empêché de rendre ça. Entre 2021 et 2022, il y a quelques initiatives, quelques rencontres qui ont été faites avec les partis politiques. En outre, notre groupe parlementaire a essayé de travailler avec d'autres partis politiques. Mais je serais de mauvaise foi si je vous disais que tout va bien dans le meilleur des mondes. Il y a une exigence de vérité. Cette exigence de vérité, c'est de dire en effet que l'institution chef de file de l'opposition n'a pas fonctionné à plein régime comme ça aurait dû être. Un engagement que nous pourrons prendre aujourd'hui, c'est que si nous maintenons, nous sommes le parti de l'opposition majoritaire, bien sûr nous envisageons d'être le premier parti, mais je serais prétentieux de penser que à court terme nous puissions dépasser le parti au pouvoir qui a une expertise, une expérience. C'est pour ça que je préfère parler d'action inscrite dans la durée. Mais si nous arrivons à avoir une position prépondérante à l'Assemblée nationale, nous ferons en sorte que cette institutionnalisation du chef de file d'opposition soit beaucoup plus effective, soit plus manifeste, dans que les gens le voient vraiment. Ça, c'est un engagement que nous prenons pour la prochaine législature. Et vous remarquerez du reste que même la précédente le président chef de file de l'opposition, ça n'a pas été aussi c'est quelque chose qui est en train de se mettre en œuvre. Il y a un engagement, il n'a pas fonctionné, nous avons pris des initiatives, il n'a pas fonctionné à plein régime, il y a un engagement à le faire. Pour ce qui est du mandat de la CENI, oui, si la loi prévoit que le mandat des commissaires de la CENI doit être renouvelé, ça se fera, la question se posera à la rentrée parlementaire. Des partis Nous sommes à l'Assemblée nationale, nous poserons ce à l'Assemblée, et l'Assemblée, le Parlement, l'Assemblée, puisque pour l'instant nous n'avons que l'Assemblée nationale, pourra se réunir, peut se réunir aussi en séance extraordinaire, pour connaître de la chose, pour connaître par exemple du renouvellement, puisque vous connaissez la procédure, c'est que les partis adressent au président à l'Assemblée, et c'est l'Assemblée qui procède au vote pour la désignation de ses membres. Donc l'Assemblée a un rôle à jouer. Étant en vacances parlementaires, nous espérons qu'à la rentrée, c'est une des questions dont elle saisira. Ça peut être pas une procédure, ça peut être aussi la procédure extraordinaire de la convocation extraordinaire, plutôt que ça se fasse. Alors, je ne pense pas que ça gêne considérablement le travail de la CENI, puisque actuellement, un travail, l'essentiel a été fait, le recensement a été fait. Des fonds ont été mis à disposition de la CENI. Ce qui reste, c'est peut-être le chronogramme, le commande des cartes et d'office. Donc, le gros du travail est fait à la CENI. Donc, ça ne devrait pas, à mon avis, trop gêner. Le gouvernement prévoit, sans être dans les confidences, ce qui a été prévu, ça a été discuté. Au sein du, je ne fais que rapporter ce qui est dans le, qui se dit dans le cadre du CPC.
Du CPC, oui.
On sait que les élections doivent s'organiser à la fin de cette année. Des engagements ont été pris. S'il y a ce qu'on appelle, ce que en RDC, qu'on aime cette expression favorite, qu'on aime utiliser, de glissement, il peut y avoir un glissement, mais il ne sera pas un glissement trop long, puisqu'après, nous risquons d'avoir des élections qui se télescopent. Donc, à la limite, c'est quelque chose qui pourra se passer premier trimestre. Et tous les partis politiques savent un peu qu'au moins, la fin d'année, c'est l'élection devra se dérouler. Voilà un peu ce que je peux rapidement, la question, ce que je peux rapidement dire, vous répondre.
Alors, moi, je reviens un tout petit peu au parti même UFC. Et est-ce qu'aujourd'hui, l'UFC est sorti de cette crise, puisque je reviens même à cette crise, est-ce que l'UFC est sorti de cette crise faible ou fausse?
Elle est sortie de la crise institutionnellement, légalement, elle est sortie de la crise, puisque les règles ont prévalu. Les dispositions statutaires ont prévalu. Donc, elle est sortie de la crise légalement, à deux points de vue, c'est-à-dire du point de vue de nos propres dispositions, à la fois du règlement et des conventions que nous avons données, et donc elle est sortie de la crise. Elle est sortie de la crise aussi institutionnellement, puisque le parti, on l'a constaté, il est présent. Il y a beaucoup de gens, la majorité, c'était une grande fête samedi. Elle est sortie de la crise. En revanche, ce que j'anticipe ou j'espère plutôt, c'est ce que nous fassions les preuves sur le terrain d'un cheminement nouveau ou d'une redynamisation. Je préfère dire pas de cheminement nouveau, d'une redynamisation. Souvent, vous savez, j'ai l'habitude de dire que l'UFC, c'est le gant en fer. J'ai l'habitude de dire que les amis, donc c'est un gant qu'on a laissé dans un armoire. Il suffit de prendre, quand tu tapes, quand on tape dessus, il résonne. Donc, c'est un peu cette métaphore, cette image que je vous donne de l'UFC. Et maintenant, vous aurez des acteurs actifs, cohérents, consciencieux, responsables, qui et porteront la voix du parti et qui seront sur le terrain pour expliquer les projets et qui se battront pour exposer aux concitoyens du projet. Donc, nous sommes sortis de la crise.
Alors, une dernière question, avant quand même que je ne vous donne la parole, c'est concernant surtout le président Jikris Olympio. Alors, d'aucuns disent que malgré son âge, il a été reconduit. Est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, il n'y a personne à part Jikris Olympio à être à la tête alors de ce parti?
C'est à l'unanimité qu'il a été choisi. Et pour ma part, je considère, et tous les congressistes ont considéré qu'il était le plus grand commun dénominateur. On l'a choisi. C'est quand même quelqu'un qui a encore, il y a l'âge et toutes les servitudes de l'âge, mais au niveau de la réflexion, de la capacité à raisonner, je le dis parce que j'ai la prétention de penser que j'ai quand même... je suis quand même aussi un esprit un peu avisé quand je discute avec lui. Je vois un homme qui peut vous citer encore Shakespeare de mémoire. Je vois un homme avec lequel vous pouvez discuter de la Seconde Guerre mondiale avec des dates précises. C'est un homme avec lequel vous pouvez discuter de poètes latins polybres en latin. C'est un homme avec lequel vous pouvez discuter du Togo, de l'Afrique. Donc, c'est quand même un homme qui a encore toutes les capacités de d'orienter enfin dans nos traditions, puisque je suis aussi, j'y crois beaucoup, tant que le père est là, on ne pose pas le problème de la succession. C'est à lui d'organiser sa succession. Tant que le père est là, personne ne va dire qu'il a prétention à lui. C'est lui qui vous pose le chapeau sur la tête, ou c'est lui qui vous confie le sceptre.
Monsieur Thiago, là, est-ce que vous ne craignez pas que l'UFC pourra avoir aussi la situation qui se passe aujourd'hui au Canada?
Vous me donnez l'opportunité, c'est pour ça que je parle ici. Non, pas du tout. De toute façon, deux situations, je suis ferme dessus, les situations ne sont pas comparables. Qu'est-ce qui a fait défaut dans le cas? Les textes sont précis. S'il y a absence du président, c'est le bureau, le premier vice-président. Absent, je dis, tel que le définit le code des personnes et de la famille. L'article, enfin, l'absence, c'est la personne dont on n'a plus de nouvelles. Et l'absence, juridiquement, c'est un fait juridique, ça se constate juridiquement devant le tribunal, devant le tribunal de Lomé. Il n'y a pas d'empêchement. Donc, s'il y a absence, nous faisons jouer. Je me porte, pour ma part, garant du fait que ce sont les textes qui prévaudront. C'est-à-dire que si demain nous avons, à Dieu ne plaise, la question de l'absence se pose, nous ferons jouer les textes. C'est-à-dire que le premier vice-président devient de facto le responsable du parti. C'est à lui aussi maintenant de faire des preuves de sa capacité à être un leader, à avoir la capacité entraînante, comme a su le faire M. Olympio. C'est à lui de régir et nous ferons jouer le consensus ou le vote. On ne peut plus clair. Après, il faut qu'on arrête les questions de personne. Si un homme part, et quelqu'un d'autre vient, faites jouer les textes. Vous vous donnez des textes, pourquoi? Si demain, au quart, c'est la même chose, faites jouer les textes. Il y a certes, on a voulu mettre de bureaux de transition. Bon, je ne vais pas mêler des cuisines internes, des choses, mais la question est prévue par les textes. Et nous, aujourd'hui, c'est pour ça que nous avons insisté sur la consolidation de l'institutionnalisation. Et c'est même un euphémisme de parler de consolidation de l'institutionnalisation. Nous avons pris une résolution sur la question de l'absence ou de l'empêchement du président national. Donc, nous avons tiré les leçons à la fois de tout ce qui s'est passé dans d'autres partis politiques, nous avons tiré les leçons de ce qui s'est passé dans notre parti, et demain, je vous garantis que ce problème ne se posera pas. Parce qu'une fois que les problèmes, nous avons réglé ce problème une bonne fois pour toutes.
On attend voir.
Oui, et oui, non, c'est très intéressant que.
Non, mais je vous le garantis.
C'est intéressant qu'au sein de l'UFC, on parle des questions d'actualité. Parce que j'ai eu entendre M. Thiago dire qu'avec M. Gilles Christ, il y a des questions. Ils abordent toutes les questions dans cette dimension.
Tout à fait.
Je veux vous poser une question. Au niveau de l'UFC, comment voyez-vous aujourd'hui la crise ce qui se passe au Niger?
Tout à fait.
Écoutez, dès que vous avez un coup d'État dans un pays, ce n'est pas une bonne chose. Les militaires n'ont pas vocation à exercer le pouvoir. Chacun doit faire les choses selon ses compétences. Le rôle des militaires, c'est de garder les frontières, de défendre l'intégrité territoriale. Un militaire n'a pas vocation à dire parce que ça ne va pas dans le pays. Non. Non. Non, non et non. Ce n'est pas le rôle. Si on ne va pas revenir encore à ces époques de ces années où nous avons quand même fait un progrès, que nous le veuillons ou non. C'est-à-dire où le multipartisme, avec ses imperfections, tout ce qui a peut-être manqué dans le multipartisme et qui l'accompagne, c'est la culture du débat, la tolérance. Ce qui a manqué, c'est que les élites qui ont pris le pouvoir dans les années 60 ont été confrontées à d'autres sujets et ont pensé qu'on pouvait construire les nations en escamotant les divergences et la démocratie, en pensant qu'on pouvait construire un État-nation qui serait garant comme creuset national. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais revenir encore à cette période où le militaire, on va penser que le militaire est pôle de stabilité, c'est faux. C'est faux, 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 faux. Les militaires n'ont pas vocation, qui retournent dans leur caserne. Et si c'est pour avoir des militaires qui vont nous ramener les Russes, si c'est pour avoir des militaires, mais Poutine n'est pas un modèle. Excusez-moi, je sais que je m'exprime en mon nom personnel. J'ai quand même le droit d'avoir des opinions. Pour moi, ce n'est pas le modèle. Si c'est pour avoir des militaires, pour aller et pour que ce soit des milices de Wagner qui viennent vous défendre, je dis non. Arrêtons, il y a un problème qui se pose. Il y a des exaspérations des opinions publiques en Afrique. Et ces exaspérations des opinions publiques ont entraîné des amalgames dans les opinions, où on pense que c'est les Blancs, les Français qui sont responsables de tous nos malheurs. Les militaires n'ont pas vocation à exercer le pouvoir. Et la position qu'adopte le gouvernement en ce moment est une position qui est conforme à notre ligne politique, qui est de toujours régler les problèmes par les voies du dialogue et en utilisant les méthodes de prévention des conflits. Établir les passerelles. Et ça, c'est une bonne chose. Parce que si aujourd'hui on envoie des militaires, comment fait-on la Suisse? Ce qu'on oublie, c'est que tirons un peu le son des expériences passées. Quand Obama vient en responsabilité, c'est lui qui commence par procéder au retrait des troupes en Irak et en Afghanistan. Et parce que le problème qui se pose, si vous envoyez des troupes dans un pays, si vous êtes obligé de rester après, c'est la suite qui importe. C'est facile d'aller déloger, de faire une guerre, mais comment vous, qu'est-ce que vous faites après?
C'est service après-vente.
Mmh. Voilà. Merci beaucoup. Il est 12h passé de 2 minutes et là, nous allons maintenant donner la parole aux auditeurs parce que les auditeurs nous ont écoutés pratiquement pendant 60 minutes et donc nous allons leur donner la parole pour qu'ils nous posent aussi des questions. Mais bien avant, nous allons faire un clin d'œil à nos annonceurs.
Le plaisir pour l'acquérir, écoutez Canal FM 93.5.
Nous sommes de retour dans cette émission, émission Club de la Presse de ce mercredi. Vous l'avez bien su, nous sommes avec Isaac Tiapé, le premier porte-parole alors de l'Union des Forces de Changement UFC. Et donc nous avons discuté alors de beaucoup de sujets. Et maintenant vous avez la parole alors de nous poser alors des questions et aussi si vous avez des inquiétudes. Nous allons prier alors Monsieur Tiapé d'ajuster bien son casque pour écouter mieux nos amis auditeurs, auditrices. Alors premier auditeur en ligne, allô?
Allô?
Bonjour.
Oui, bonjour chef.
Comment vous allez?
Je vais très bien chez vous.
Le nom, ça va aussi.
C'est Sylvain.
Philbert.
Sylvain.
Sylvain, voilà.
Oui.
Allez-y Sylvain.
Bon, je voudrais demander à l'invité de santé éducation, évidemment.
Oui.
Et pour le numéro, pour avoir le journal en PDF. D'accord. Et pour M. Tiapé, auparavant, on avait su qu'il y a les sages du Nid qui ont sollicité le dénouement de la crise entre ces deux messieurs, les deux camps. Est-ce que c'était son initiative, comme il est un peu proche du pouvoir, est-ce que c'était son initiative qui n'a pas marché? Et puis, il faut que les gens essayent de respecter les tests qui fonctionnent dans nos regroupements politiques. Si on n'arrive pas à respecter les tests, comment, si on arrive au pouvoir, on va respecter les tests fondamentaux de la République?
Sylvain?
Allô?
C'est bon?
Oui, c'est bon.
Voilà, merci beaucoup Sylvain. 22-21-33-114.
Allô?
Allô? Oui, bonjour.
Bonjour, c'est Comi.
C'est Comi, allez-y.
Oui, j'ai deux questions pour l'invité. Je pense qu'ils sont à la fin. Quel est le chronogramme des élections de cette année?
Le chronogramme?
Oui, bien sûr, le chronogramme. Parce que jusqu'à ce jour, on ne sait pas ce qui se passe. Et nous, les acteurs économiques, on se pose mille questions pour les activités. Et surtout que les élections sont prévues pour décembre. Or, nous sommes en août. Il faut faire les commandes. Il faut faire par-ci, par-là. On est confus. Quel est le chronogramme pour qu'on sache ce qui va se passer à la fin de l'année? Deuxième préoccupation, je pense pu comprendre dans ces interventions comme si le recensement dans la zone 1, numéro 1, est terminé. Mais je lui rappelle que le gouvernement lui-même a démontré qu'il y a eu des insuffisances, que certaines de volets sont restées sur le carreau. Mais à le comprendre, c'est comme si ces Togolais qui n'ont pas de cas d'électeurs sont rangés dans le placard. Comment, eux, dans l'opposition, ils pourront gagner les élections au moment où les citoyens n'ont pas de carte d'électeur.
Merci beaucoup, Komi. 22 21 33 114, 22 21 33 114, 91 36 63 75. Allô? Allô? Bon, allô, bonjour.
Et bonjour, Canal FM.
Oui, comment vous allez?
Ça va bien.
Le nom, c'est?
C'est Karim.
Pélé.
Karim,
ah, oui. Karim, allez-y.
Comment allez-vous?
Ça va aussi.
Salut l'invité.
Oui.
Oui, j'ai une question pour l'invité. Comme lui aussi l'opposant, je voulais lui demander une question. En Côte d'Ivoire, c'était le 12, Alassane Draman Ouattara, qui vient de faire 3 ans au pouvoir, ou bien bon, 3e mandat, qui a été inauguré 5e pont. 5e pont, et c'était une grande superficie. Je voulais lui demander, et chez nous au Togo ici, on a un bon président qui travaille pour nous. Quel jour, et nous, on doit avoir au moins une seule échangeuse dans ce pays? Merci.
Merci beaucoup, Karim. 22 21 33 74 91 36 63 75. Allô?
Allô?
Oui, bonjour.
Bonjour.
Le nom, c'est
Monsieur Gagnon.
Monsieur Gagnon.
Oui.
Allez-y.
Bonjour.
Bonjour.
Bonjour à l'invité.
Bonjour.
Oui. Moi, personnellement, quand je l'entends, les gens de l'UFC actuel, je dis l'UFC actuel parce que je veux parler de l'UFC que dirigeant M. Sénat et Claude Romao. Quand j'entends leur façon de parler, j'ai une haine pour le parti et un ressentiment. Pour l'UFC, moi j'ai connu l'arrestation quand Atiga était à Dewi, brigade du port, gendarmerie nationale, et j'étais le délégué et chef de chose-là de l'UFC, chargé de quartier Lomnava Bassadi à Panyakome. Et on a souffert pour ce quartier, pour ce parti. Mais aujourd'hui, quand les, comme on appelle dans des pays, les militants de dernière heure s'accaparent maintenant, et que Jésus-Christ, je crois que Jésus-Christ, depuis la nuit des temps, nous a trompés, on ne dort plus chez nous,
Monsieur Gagnon. Oui, Monsieur Gagnon, si vous avez une question, posez, puisqu'il y a beaucoup de personnes, il y a beaucoup de personnes qui sont en ligne.
Voilà la question qui arrive. Si les élections qui s'approchent là, les élections législatives, si ce sera une élection digne de ce nom, je crois que ce parti que dirigent ces deux n'aura pas de député.
Mais décidément, ce n'est pas une question, puisque vous êtes en train de répondre également à votre propre question.
J'ai tiré.
Alors, 22 21 33 114. Allô, nous prions nos auditeurs, alors que quand ils rentreront en ligne, de poser des questions. Allô.
Oui, bonsoir.
Bonjour, comment vous allez?
Bonjour à notre invité.
Oui, bonjour.
Il y a quelques années, le président Jésus-Christ Olympio avait fait une déclaration qui se retire de la vie politique du Togo. Je ne sais pas pourquoi aujourd'hui on fait un congrès et on le nomme encore président. D'autre part, et quand j'entends M. Tiakou parler, j'ai l'impression que je vis une résurrection de Machiavel. Excusez-moi. Merci.
Le nom c'est? Alors, 22 21 33 114 91 36 63 75. Allô? Oui, bonjour.
Comment vous allez?
Oui, ça va. Comment vous allez?
Non, par la grâce de Dieu. C'est Evangelist.
Oui, voilà, Evangelist Senghor. Allez-y.
Bon, ce que je n'arrive pas à comprendre, le président national de l'UFC, à la fin de Jésus sur le Dieu.
Oui.
Alors, jusqu'à présent, on ne l'entend plus sur les chaînes. Quelqu'un qui a créé son parti. Aujourd'hui, c'est le seul parti que même sur le plan étranger, on connaît ça. Bon. Mais ce monsieur qui ne parle pas à sa population, il y a des crises au Togo, et ce ça ne va pas, mais il ne parle pas. Mais dites-moi, est-ce que réellement, c'est quelqu'un qui a une vision pour cette nation? Bon, voilà maintenant à son âge, 82 ou 85 ans, je ne sais pas, et on crée, on fait congrès. et on le nomme encore président. Bon, ok. Aujourd'hui, nous voulons l'affirmer. Et on a plus de fois attendu, la famille a attendu d'être au pouvoir pendant plus de 50 ans. Donc, nous, on a créé des partis politiques. Et on commence par là. Nous ne voulons pas partir alors qu'il y a des jeunes. Bon, maintenant, à qui la cause? Est-ce que. Pourquoi nous accusons maintenant qu'on est tombé? Je vous remercie beaucoup.
Merci beaucoup, Evangéliste Senghor, 22-21-33-114. Allô? 22-21-33-114, 91-36-63-75. Allô? Allô, bonjour. Allô?
Oui, bonsoir.
Oui, bonsoir, comment vous allez?
Ça va bien.
D'accord. Le nom, s'il vous plaît?
Non, c'est John.
John, vous nous appelez de quel quartier?
Je vous appelle de Sokodé.
Sokodé, allez-y, John.
D'accord, c'est pour participer à votre émission.
Voilà, vous y êtes.
D'accord, c'est une question à votre invité, le soi-disant celui de l'UFC, là.
Pas soi-disant, non, il est le premier porte-parole alors de
l'UFC. D'accord, excusez-moi l'expression. C'est pour lui poser la question, c'est l'UFC d'avant ou bien c'est l'UFC d'aujourd'hui? Pourquoi je pose cette question? Parce qu'on en a connu le visage de l'UFC d'avant. Et aujourd'hui, lorsque vous avez eu à lui poser la question, à savoir si ce n'est pas le désagrément qui aurait poussé aussi les militaires à prendre le pouvoir au Niger, il en a répondu non, qu'ils n'ont pas ce droit. Ce n'est pas leur mission qui leur a été conviée. Mais s'il arrive maintenant aux civils qui sont sur le pouvoir, qui vont amener la population, mais le pays à la perdition. Donc les militaires n'ont qu'à croiser les mains, regarder le peuple, tout se détruit comme ça.
John,
c'est mes deux questions que j'ai à lui poser.
Ok, John, merci beaucoup.
Merci à vous.
Voilà, merci. Je pense que c'est le dernier auditeur que nous venons alors là de recevoir depuis Sokodé. Alors, nous revenons en studio. Nous revenons alors sur notre plateau ici. Isaac Tiapé, vous avez écouté les uns et les autres se prononcer sur aussi votre intervention ici au Club de la Presse. Et vous avez écouté Sylvain, et également le premier auditeur, même d'ailleurs Sylvain, qui nous a posé une question concernant. C'est vrai que nous n'avons pas trop cerné aussi sa question, mais c'est concernant surtout les sages unis. Est-ce que le rôle, entre-temps, est-ce que c'est les sages unis qui avaient, qui avaient réglé alors de problèmes au sein alors du parti? Est-ce que vous avez apporté votre contribution?
Non, pas du tout. En tout cas, ce que je peux dire, pour avoir une certaine idée, Unir ne peut pas intervenir dans les affaires de l'UFC. La réconciliation, les réconciliations, les initiatives qui ont été prises pour régler la question de l'UFC étaient des questions internes auxquelles j'ai participé et d'autres personnes de sages avec l'aval ou souvent sous l'égide de M. Olympio lui-même. Donc il y a quelques acteurs, ce sont des acteurs internes qui ont œuvré pour qu'on arrive à cette solution du Congrès. Donc Unir n'a rien à voir avec ça. Je rappelle, pour ce qui concerne M. Olympio, que Abdoulaye Wade au Sénégal a commencé sa carrière politique, il est devenu président à 86 ans. Hein. On a vu des gens encore qui à cet âge-là. Donc la question de l'âge, oui, mais après un départ, on sort de la politique qu'à la fin, quand on a franchi l'autre rive. Et tant qu'on est en vie et qu'on est en capacité, c'est une question personnelle. Tant que M. Olympio a une capacité d'intervenir d'une manière ou d'une autre par le biais de messages, par le biais de ses collaborateurs, un parti politique, ce sont aussi des collaborateurs. Et donc, quand ces collaborateurs aussi, ces conseillers peuvent porter le message, c'est suffisant. Il y a une question, il y a plusieurs questions qui reviennent,
justement,
qui sont souvent ce que j'appelle des questions d'opinion tranchées. Là, par exemple, ou même une personne qui carrément parle de haine et de ressentiment, c'est tout dire. Non, mais c'est tout dire. Quand quelqu'un vous dit est-ce que c'est l'UFC d'avant, heureusement que nous avons le droit dans ce pays de dissentir, de ne pas partager nos opinions. L'important, c'est que ces opinions puissent s'exprimer, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, sans stigmatisation, sans indexation de l'autre. Ce n'est pas parce que nous avons dire que l'UFC, c'est toujours l'UFC. Un parti politique peut l'identité, les identités des partis politiques ne sont pas fixes. Et ce que je constate à travers toute cette question, aussi bien celle de M. Gagnon, de M. John, voire de monsieur Karim ou même de Komi, ce sont des questions qui sont symptomatiques de ces manières de faire de la politique au Togo sans les critiquer, c'est parce que c'est aussi l'analyste et le chercheur que je suis obligé de décrypter des causalités. Ce sont cette manière de faire de la politique où on constate des identités encore sont sclérosées. Identité, c'est-à-dire cette manière dont on a de se représenter celui qui ne pense pas comme vous, cette manière dont on a soi-même de se concevoir dans la politique, c'est de penser que l'autre, même s'il ne partage pas votre opinion, il est mauvais, c'est de le juger d'un point de vue moral ou plus moralisateur. C'est de vous là. Ça. Qu'est-ce que vous voulez ? Il y a ce qu'on appelle des pétitions de principe, c'est-à-dire qu'ils ont fait des conclusions avant même de discuter. Il est dans ce cas inutile. En revanche, ce que je peux faire, parce que c'est aussi mon métier, ma compétence, c'est de faire œuvre de pédagogie, de dire que c'est quelque chose, c'est naturel, parce qu'il y a, comme il a dit, du ressentiment. Et quand il y a du ressentiment et de la haine, il n'y a plus du discernement. Donc, quand il y a du ressentiment, de la haine, il n'y a plus du discernement. Donc, mon rôle, c'est de comprendre cela, de ne pas le justifier et de faire en sorte que ces ressentis qui se veulent se manifester par la reine ou quand on arrive à vouloir même justifier des coups d'État dans le pays, ça nous oblige à faire en sorte que ces choses n'arrivent pas dans nos pays. Ça nous engage davantage à être plus, à mieux entendre les colères dans nos populations. Et c'est ça. Alors, pour ce qui concerne la question du chronogramme,
oui,
je n'ai jamais dit que je suis content du recensement. Je n'ai jamais dit que c'était une bonne chose. Vous voyez, là aussi, c'est qu'il faut apprendre à écouter. Et ça, c'est un travail aussi. Apprendre à écouter. Ne pas prêter des intentions ou de ne pas écouter que de manière partielle. J'ai dit qu'il y a eu un constat. Ce qu'il aurait fallu peut-être faire, c'est de faire des propositions, parce qu'on est à la CENI, concrètes sur la manière de le faire. Oui, des propositions faites, mais des propositions qui peuvent être faites en responsabilité, mais pas de manière en combinatoire. Or, il y a un parti, je le dis encore, il y a un parti politique dans ce pays qui excelle dans l'attitude combinatoire, c'est-à-dire, elle donne des ordres, elle dit c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Ils ont une démarche combinatoire alors qu'ils n'ont même pas la force.
Et c'est quel parti ?
Je ne vais pas le dire. Or, je veux dire, il y a une sagesse quand même. Il y a une sagesse africaine. Il y a une sagesse de chez nous qui dit quand tu n'as pas la force, apprends à ruser. Et je sais aussi que le maïs qui veut aller faire la guerre contre le moulet, il va être en le mou. Donc, il y a un peu d'habileté. Faire de la politique aussi, c'est de l'habileté. Quant à ce qui est la personne qui m'assimile à Machiavel, alors, je ne sais pas comment il faut le prendre. Est-ce le Machiavel dont Spinoza dit qu'il œuvre parce que c'est un bienfaiteur pour la liberté, parce qu'il nous apprend les travers des princes? Est-ce que c'est ce Machiavel-là en exposant? Ou alors, est-ce que c'est le Machiavel qu'on a mal lu et qu'on a mal compris en disant que c'est l'homme qui dit de faire le mal? Ma vocation, la culture qui est la mienne, à la fois culture intellectuelle et la culture qui est la mienne spirituelle, m'oblige à toujours faire en sorte que les choses aillent mieux. C'est m'oblige au sens de la mesure et de la modération. Ça m'oblige à toujours faire en sorte que même ce que je n'aime pas ou ce qui est différent de moi, que je lui tende la main, que j'aille vers lui. C'est pour ça que je n'invective pas. C'est dans la mesure et la modération que consiste la vérité parfois. Donc bon, tout ce qui est excessif est mauvais et n'est pas bon, n'est pas la vérité.
Voilà.
Donc, je n'ai pas parlé du recensement, j'ai dit apportons-nous, soyons des politiques. Nous n'avons que des politiciens, la plupart des politiciens, des agitateurs, que nos responsables, les chefs de parti, à l'exception de quelques-uns, grandissent un peu et arrêtent de déclarations tout le temps à la radio en attaquant, en critiquant, en insultant. Il y a une simple sagesse. Quand vous n'avez pas la force, apprenez à ruser. Pas la ruse, je ne parle pas de la ruse qui est malignité. Je parle de ruse qui est habileté tactique.
Alors,
et vous savez, pour finir, je rappelle, la tortue, quand tu es une tortue et tu veux faire une course contre le lièvre et le cheval, il faut être avisé et assez astucieux.
Alors Senghor qui, on va terminer avec la question de Senghor sur l'absence alors de Jikris Olympio au pays, tandis qu'il est le chef de file de l'opposition, et il posait la question de savoir est-ce que vraiment votre leader a une vision pour soit le pays ou le parti.
Je pense que, ce n'est même pas je pense, il est assuré que M. Olympio a œuvré pour la, même s'il n'est pas arrivé au pouvoir à exercer le pouvoir d'État, a œuvré et œuvre pour la démocratie et le pouvoir pour le bien-être des populations. Ça, on ne peut pas le lui renier. Avec l'âge, il a quand même des collaborateurs. Il nous a tracé une certaine voie. Il y a peut-être parmi nous des gens qui n'ont pas bien compris, qui veulent s'autonomiser. Mais il a des suivants, des gens qui vont suivre et qui sont en capacité aujourd'hui de faire, d'achever, d'accompagner ce que le père a fait, ce que le père a tracé. Il y a des collaborateurs qui sont en capacité aussi de faire aussi, autant, aussi bien que lui.
Voilà, rapidement, votre mot de la fin.
Bah, écoutez, c'est de dire, d'inviter nos populations à davantage de modération. Le débat politique, je vous l'ai dit au départ, c'est un fond politique. Le fond politique togolais est radical. C'est un fond politique polarisé. Vous voyez, certaines questions en sont la manifestation. C'est d'inviter les gens à mieux écouter et c'est d'inviter aussi les populations en ayant cette idée que nous sommes résolument engagés pour le changement dans ce pays, mais un changement dans la fraternité, la paix et la tolérance.
Abel, rapidement, vous rappelez, il y a un auditeur qui a demandé, je pense que c'est Sylvain, qui a demandé le PDF de votre journal, comment collaborer.
Je crois que Sylvain peut contacter Santé Éducation à ces deux numéros,
Oui.
Le 96 14 97 97 ou le 91 79 47 07. Bon, je vais rappeler encore le numéro. Le 96 14 97 97 ou le 91 79 47 07.
Merci donc, beaucoup. Merci beaucoup, Taboré.
Non, je n'ai rien à dire si ce n'est de jeter un carton vert à nos FDS, parce qu'il faut toujours avoir une pensée pour elles. Aujourd'hui, il y a une partie de notre pays qui est un peu dans une situation un peu déplorable.
Je parle d'insécurité.
Et puis il y a ceux-là qui se sont portés, c'est vrai que c'est un sacerdoce, mais ils se sont portés volontiers pour combattre, pour que nous soyons là où nous sommes, pour qu'il y ait la paix. Mais en plus d'eux, il faut parler aussi de leur hiérarchie. Il faut parler aussi de ceux-là qui sont aujourd'hui dans le pays et qui exécutent l'opération Feu Tricolore. Voilà. Ils font un travail exceptionnel, un travail pédagogique exceptionnel. Il faut les féliciter, les encourager et pas ricocher leur hiérarchie. Je vais parler du directeur de la police, du directeur de la gendarmerie et le ministre de la sécurité.
Voilà, merci.
C'est un travail très intéressant.
Merci beaucoup, Abbas, rapidement.
Mais ça y est, dans l'acte que moi je vais lancer, parce qu'il y a des individus mal intentionnés qui ont investi le réseau Timoni. Je vais en appeler à ces gens-là parce qu'ils n'ont qu'à faire attention. Je ne sais pas si c'est avec la complicité de Togoko, parce que les gens vous appellent carrément. Ils vous identifient complètement que c'est vous et même ils vous donnent votre mot de passe. Si vous mettez l'argent sur votre compte, immédiatement ils le retirent. Ils ont votre mot de passe. Il faut que Togocom réagisse par rapport à ces genres de choses parce que c'est des sommes importantes que ces messieurs-là sont en train de soutirer au nom de Togocom. La personne appelle dit que je suis du service communication Togocom. Donc Togocom n'a qu'à prendre ses dispositions pour démasquer ces messieurs.
Merci beaucoup Abel. Abel, merci à toi. Et merci Abbas. Merci Tchabouré. Merci beaucoup Monsieur Isaac Tiapé. Merci d'être passé dans cette émission.
Merci Monsieur Lossou. Merci à vos confrères qui nous ont accompagnés. Merci à tous les auditeurs qui, d'une manière ou d'une autre, ont apporté leur contribution. Nous en tiendrons compte.
Merci à vous qui nous avez suivis. Ça fait toujours plaisir d'être avec vous dans cette émission. Et merci à Thomas Dativi qui a assuré la mise en onde. Jérôme Dakoucha a assuré la mise en ligne. Je suis Pascal Lossou. Au revoir. Canal FM.
Thank you.